Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Dans son discours de réception à l'Académie française, peu après avoir été élue, la philosophe Barbara Cassin évoque le pouvoir des mots. Elle mentionne le rôle de la Commission de vérité et de réconciliation en Afrique du Sud, mise en place à l'issue de l'apartheid pour réconcilier le pays. Les victimes étaient invitées à s'exprimer publiquement, devant un forum, sur ce qu'elles avaient subi. Il s'agissait d'entendre et de reconnaître leurs souffrances. Les auteurs des violences devaient, eux, s'exprimer en avouant les exactions commises. Barbara Cassin explique que cette commission Vérité et Réconciliation dit beaucoup du rapport au langage, et elle cite Desmond Tutu qui en fut président. « C'est un lieu commun, estime-t-il, de traiter le langage simplement comme mot et non comme acte. La commission souhaite adopter un autre point de vue. Le langage, discours et rhétorique, fait des choses. Il construit la réalité. » La réalité qui se construisait alors, reprend Barbara Cassin, c'était le peuple arc-en-ciel, le nouveau peuple d'Afrique du Sud. Pour éviter le bain de sang, il fallait tout dire avec, à la clé du dispositif, l'amnistie, produisant non pas la vérité, mais assez de vérité pour produire un passé commun. Qu'en dire, c'est vraiment faire. Et elle ajoute, avoir foi dans le langage, c'est comprendre qu'il n'y a rien de plus politique que de parler. Si l'on a cette foi dans le langage, si l'on accepte que dire, c'est vraiment faire, alors qu'en est-il des mots qui consolent? De ces phrases qui disent « je t'aime », de ces énoncés qui disent « pardon » Qu'est-ce que ces mots peuvent résoudre et comment peuvent-ils réparer? C'est le dernier épisode de notre mini-série sur les petites phrases, une série de Jérôme Massella. Je suis Charlotte Pudlowski et vous écoutez Fracas.
Lors d'un voyage en 2019, j'ai retrouvé un ami d'études, Wally, et sa femme Julie, que j'avais rencontrée à leur mariage. Comme elle écoutait des podcasts, je lui ai envoyé mes tout premiers enregistrements maison, réalisés au dictaphone. Et quand on s'est revus à Montréal, elle m'a lancé « Moi je les aime bien tes histoires, il faut que tu continues ». Avec un aplomb et une sincérité qui m'ont complètement sonné. Quelqu'un avait écouté, en soi c'était déjà une surprise, j'avais une auditrice, et ça lui avait plu. Deuxième surprise. Et j'ai continué, jusqu'à aujourd'hui. C'est comme ça que ça s'est passé. Je ne dirais pas que sa parole a tout déclenché. Mais ça s'est produit, je m'en souviens, et quand je lui envoie ce que je fais maintenant, je ne manque pas de lui rappeler « N'oublie pas, c'est grâce à toi ». J'avais 33 ans, et sans en avoir conscience, je pense que j'attendais un encouragement sincère pour me lancer. Thomas a 13 ans lorsqu'il se lance dans l'inconnu et lui aussi attend la bonne phrase pour plonger complètement.
J'attendais une parole d'un homme de cette stature, de cet âge-là, de me remettre au centre du monde, enfin, dans le monde. Alors en 93, j'ai 13 ans, je suis en classe de 4e et je vis à Monton, à la frontière italienne. Plutôt connu pour ses personnes âgées, son climat méridional et sa fête des citrons. Je vis dans une famille, on va dire, de la moyenne bourgeoisie. Je suis dans un collège privé. Je suis un peu rond, je suis dévoré par l'acné. Je suis amoureux d'un garçon qui ne m'aime pas en retour. On s'amuse un peu ensemble à la découverte de ce qu'on peut faire avec ces corps-là quand on a 13-14 ans. Et je crois pas du tout encore qu'il est possible qu'on tombe un jour amoureux de moi. C'est pas vraiment une relation parce qu'elle est à sens unique, parce que ça ressemble pas au couple de mes copains et mes copines qui sortent ensemble. Je connais Paris, je le fantasme aussi, hein, parce que j'y suis allé à 5, 10, 12 ans, 14 ans. voir des spectacles, aller à l'opéra. Donc pour moi, c'est cette vie-là, en fait, hein, qui m'attend si un jour je dois aller à Paris. Oui, je me vois absolument quitter mon ton, je veux voir plus grand. Je veux voir plus de gens, je veux découvrir des gens différents. Mes parents m'ont inscrit en classe de piano, j'ai 6 ou 7 ans, je sais plus. Enfin voilà, je suis vraiment enfant, quoi, au conservatoire. Ça se passe pas très bien, je travaille pas assez. Je me rappelle, j'écoutais très très longtemps un morceau, puis j'allais devant mon piano et j'attendais que ça sorte pareil. Bon, sauf qu'on joue pas comme Glenn Gould, même si on a écouté 20 heures de Glenn Gould et quand on a 7 ou 8 ans. Donc je vis assez mal les cours de piano, où je suis pas bon et puis on me le dit. En revanche, j'ai intégré le chant choral et ça se passe super bien. Je place ma voix naturellement et puis j'ai des copains et des copines et c'est beaucoup moins solitaire que le piano. Et commence à poindre l'idée du groupe qui me plaît. Je pense qu'en 6e et en 5e, au collège, j'ai joué des petites scènes avec la prof de français, avec la prof d'italien. Alors j'ai joué Monsieur Panis dans la partie de cartes. Alors dans le sud, c'est très très fort, hein, évidemment. Ça me plaît beaucoup. J'aime bien, je fais rire les copains et je commence à être reconnu. Et je m'inscris dans la classe dramatique. Donc là, je suis en 4e, je dois avoir 13 ans. Le conservatoire est au centre de Menton, pas loin du bord de mer. C'est une grande villa, très bourgeoise, je dirais 19e, avec plein de petites salles. Hein. Il y a des affiches de partout, de concerts, d'anciens spectacles. Je monte la volée d'escalier en marbre et je sais la porte en face. En rentrant à gauche, il y a une cheminée en marbre sur laquelle est assis celui que j'apprendrai à être Wilfried, qui se souviendra un camarade. Et puis en face, il y a une fenêtre qui donne sur le jardin. Et il y a un grand type avec une moustache très mince qui a des faux airs de Francis Cabrel. Et j'en comprends que c'est le prof. Il doit avoir 40 ans, l'âge que j'ai aujourd'hui. Alors pour moi, quand t'as 13 ans, évidemment, c'était un vieux, quoi. Enfin, pour moi, il n'avait pas d'âge, en fait. Hein. Les adultes, ça n'a pas d'âge quand t'es adolescent. Et il a un regard très perçant, un peu sombre. Enfin, il dégage quelque chose, cet homme-là. Et je ne suis pas encore capable de distinguer qui a l'air d'être là depuis longtemps ou pas. Alors, je le vois un peu aux postures. Je ne sais pas si je le sais ou si je le ressens, mais dans la posture. Donc, il y a des gens qui ont l'air d'être très à l'aise dans cette salle-là. Je comprends que ceux qui sont face à lui pour le moment sont les anciens. Et donc, il leur demande de s'asseoir à ses côtés. Et puis, nous, les petits nouveaux, il nous demande de mettre en rang d'oignon. Et ils nous regardent quelques instants, les uns après les autres. Première impression, un immense stress. La peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être pris, parce qu'en fait, il avait le droit aussi de dire après ce premier cours, bon, là, ça ne va pas le faire. Et donc, un sentiment de stress. Et puis, bah, tu sais, quand tu rentres dans une petite salle comme ça, dans un groupe de gens qui se connaissent, bah, tu as les regards vers toi et c'est quand même, c'est impressionnant. On doit être 6 ou 7. Et il nous dit... ici, vous avez le droit d'exister. Et moi, ça me bouleverse. Et c'est la première interaction qui va nous lier. À cette seconde-là, je comprends que quelque chose d'important va arriver, qu'il ouvre quelque chose. Je sens en moi quelque chose se débloquer. Il ouvre un champ de possibles. J'entends ce « ici » de manière très forte. Et je me dis, c'est ici que je dois être. C'est ma place. Ce qui a beaucoup joué en moi, là, c'était pas tellement que j'étais accueilli en tant qu'individu, mais en tant que membre d'un groupe. C'est ça qui manquait à cet endroit-là. Et il nous fait passer le texte qu'il nous avait demandé de préparer à la réunion de rentrée, en tout cas quand on s'était inscrit. Et moi, j'ai choisi Le Dormeur du Val d'Arthur Rimbaud. C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent. Où le soleil de la montagne fière, lui, c'est un petit val qui mousse de rayons. Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans le frais cresson bleu, dort. Il est étendu dans l'herbe, sous la nue, pâle dans son lit vert, où la lumière pleut. Les pieds dans les glaïeuls, il dort, souriant comme sourirait un enfant malade, il fait un somme. Nature berce-le chaudement, il a froid. Les parfums ne font pas frissonner sa narine, il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine. Tranquille, il a 2 trous rouges au côté droit. Je rentre chez moi, après le conservatoire, ma mère me demande si je suis content de ma journée, parce que elle savait que c'était important hein, pour moi. Et là, je m'assois sur mon lit dans ma chambre. J'ai une immense affiche de Indochine, le film avec Catherine Deneuve. Voilà. Et là, je m'assois et je m'effondre en larmes. Je me rends compte que je vais intégrer un groupe de jeunes gens un peu comme moi. Assez sensible, pas fragile, mais sensible. C'était pas dingue d'être bouleversé par un poème. Et ça, ça change une vie, de se dire qu'on n'est pas seul. Alors, il y avait deux sœurs que j'aimais beaucoup, qui étaient complètement farfelues, qui avaient un rapport à la vie hyper joyeux. Enfin, c'était un bordel sans nom dans leur famille. On riait toujours, tout le temps. Enfin, voilà, c'était très, très amusant. Il y avait... le jeune premier. Il jouait la scène des stances dans le site de Corneille. Il m'avait bouleversé. Il y avait une jeune fille très très belle qui s'appelait Marie, une grande brune et qui jouait Antigone dans le texte d'Anouilh. Je suis la première à croire au jour ce matin. Il y a un vieux monsieur qui a longtemps vécu à Paris, qui a été barman dans un palace qui s'appelle Jean, qui joue Mort d'un commis voyageur de Arthur Miller. Et je me dis, ouais, mais tous ces gens, ils sont un peu rock'n'roll, ils sont un peu différents. Et il y a un peu tous les âges. Je crois que je sais que je vais pouvoir leur dire que j'ai pleuré hier en écoutant Glenn Gould jouer Bach. Et qu'il y a que je vais pouvoir leur dire. T'as des copains et des copines qui, eux aussi, en quatrième, en troisième, en seconde, dépensent leur argent de poche pour aller s'abonner au théâtre. Et t'y vas le dimanche. Tu prends le train, tu négocies avec tes parents pour pouvoir y aller. J'ai ma place au sein du groupe. Je me rends compte de son exigence. Je pense que je mettrais des années à comprendre qu'il était bienveillant, qu'il nous aimait. Mais en fait, ça a été certainement un des adultes avec lequel j'ai été le plus en conflit. Il est d'une exigence folle. Et puis, il nous confronte à 15-16 ans, à Ionesco, Racine, James Sanders, Beckett, enfin Brecht. J'ai 15 ans et je fais une scène de la bonne âme du Séchuan de Brecht. Et lui, il savait qu'il fallait respecter les auteurs. Nous, on ne savait pas. À 15 ans, tu ne respectes pas, tu... T'étudies parce que t'es pas trop mauvais en français, mais tu te rends pas compte du génie. Je pense qu'il nous confronte au génie. Je me souviens d'une de mes amies qui, un samedi sur deux, parce qu'on avait cours le mercredi et le samedi après-midi, claquait la porte quasiment en insultant. Mais elle est restée 5 ans ou 6 ans comme moi. Après, je continue à faire du théâtre jusqu'en terminale. Et je m'inscris à la fac en lettres et je prends principalement des cours où on parle de théâtre. Et puis, je vais au moins deux fois par semaine à l'opéra, au théâtre, avec mes potes de lettres. En 2001, je monte à Paris, je m'inscris à l'Institut d'études théâtrales, à l'IET. Et là, je rencontre des profs dont j'ai lu les livres en étant élève en province, Georges Banu, ça. Et ça me bouleverse. Je rentre dans la classe de mise en scène d'Éloi Recoing. On monte Heiner Müller. Alors moi, là, il y a tous ces gens qui existent pour de vrai face à moi. Je vais au théâtre tous les soirs. Quasiment, pendant 12 ans. Je ne fais plus que ça. Je vis, quoi. Enfin, c'est mon milieu. Et puis, j'enseigne à la fac. Et puis, je décide d'enseigner au collège et au lycée. Et de poste en poste, je me retrouve à enseigner sur une spécialité théâtre, ici au Mans. Et j'ai face à moi des jeunes gens comme moi, il y a 25 ans. Au final, ces années de conservatoire, ça a duré 5 ans. Alors cette phrase-là, ici, vous avez le droit d'exister, j'avais complètement oublié. Et puis en me retrouvant au lycée devant mes élèves, cette phrase m'est revenue. Le conservatoire à Monton m'est revenu, mes camarades. Hier soir, j'ai emmené mes élèves voir La Mouette de Tchekhov. Et donc j'ai des élèves qui ont passé un bon moment, qui étaient au théâtre, qui ont adoré la vidéo, parce que c'est une mise en scène qui travaille beaucoup sur la vidéo. Puis j'ai deux jeunes gens qui sont sortis en larmes. Et je lui dis, mais c'est le spectacle qui vous a tant ému. Et elle me dit, mais monsieur, c'est formidable, c'est formidable. Et là, tu vois, rien que d'en parler, ça m'émeut parce que je me dis, ils ont pris conscience que le théâtre, c'est aussi une chance formidable d'être ému. Et là, je pense à des élèves qui savent que c'est un endroit de reconstruction, qui l'ont déjà compris. Moi, j'ai une gamine qui m'a dit, moi, monsieur, je suis ici parce que le théâtre, ça m'a sauvé la vie à 15 ans. Il y a un gamin qui m'a dit, je sais qu'ici, personne ne se moquera de moi. Cette phrase, pour moi, elle a changé ma vie. Et non, je n'ai jamais revu ce professeur-là. Et Je sais pas si je le reverrai. Je sais même pas si j'en ai envie. Là, j'ai aussi certainement sublimé la relation qui était la nôtre, parce que quand même, il était, il était rude. Et j'ai dû m'énerver contre lui. J'imagine que j'ai des pages de mon carnet, de mon journal intime de l'époque qui le vilipendent. Hein. Après, oui, je pense que quand on est adolescent, on est très ingrat face à... Mais parce qu'on a plein de choses à vivre, parce qu'on est boulimique d'aventure et que bah, ces gens-là, c'est bien, mais il y en aura d'autres. Et on dit pas merci. Après, je pense que je serais incapable de le remercier directement. J'irai jamais lui dire en face, je crois. D'abord parce que c'est un homme d'une grande pudeur. Il détesterait. Puis peut-être aussi par peur qu'il ne se souvienne même plus de qui je suis. Aussi.
Cette mini-série de Fracas a été tournée et montée par Jérôme Massella. Bénédicte Schmitt a composé la musique des épisodes. Elle a réalisé la série, fait le mix. Le générique est de Valentin Fayot. Maureen Wilson, responsable éditoriale, et Marion Girard, responsable de production, ont supervisé la production de cette série. Je suis Charlotte Pudlowski et Fracas est une production Louis Média. Vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de podcast, nous envoyer vos histoires à hello@louismedia.com. Et surtout, n'oubliez pas de soutenir Louis en vous abonnant au club louismedia.com/club. À très vite.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Hi. This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.